Il est 8h39 sur Radio Judaïka et on entre dans la dernière demi-heure de cette matinale. On a le grand plaisir de recevoir ce matin Vincent Wagmann. Vincent Wagmann est historien et consultant. Il travaille pour une petite entreprise qui s'appelle Projet Histoire, où il accompagne des gens pour la création de films, de vidéos et d'expositions historiques. Et il est spécialisé dans la recherche, dans les recherches et la publication en lien avec la présence juive en Belgique. Il vient aujourd'hui nous parler de son dernier ouvrage en date, La famille Miliband, un demi-siècle dans les tumultes de l'Europe. Bonjour Vincent Wagmann, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien.
Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale de Radio Judaïka. Donc, on vous a présenté rapidement, vous êtes un peu un spécialiste des recherches historiques sur la présence juive en Belgique, et à travers ce livre qui met en scène une famille dont le nom ne nous est pas inconnu, puisque ceux qui s'intéressent un petit peu à la politique internationale savent qu'il y a eu au Royaume-Uni deux hommes politiques d'envergure, David et Ed Miliband, qui, il y a une grosse dizaine d'années de cela, se sont même disputés entre frères la présidence du parti travailliste britannique. Eh bien, vous venez nous raconter l'histoire de cette famille venue de très loin en Europe orientale, c'est ça ?
Très loin, disons que c'est une famille originaire de Varsovie, une famille juive typique, assez modeste, une très grande fratrie qui, comme beaucoup de juifs, eux habitaient dans le quartier de Praga, vivaient très mal l'antisémitisme, vivaient très mal la pauvreté. Toute cette fratrie, tous ses frères et sœurs sont nés aux alentours au tournant du siècle. Et ils ont cherché à quitter la Pologne, qui était si peu amène à leur égard, comme beaucoup de juifs du Yiddish Land, de manière générale d'ailleurs. On est à une époque où les portes de l'Amérique tout doucement se referment après 1918. La Pologne se reconstitue en tant que telle dans un climat de nouveau avec une belle recrudescence antisémite, un regain de paupérisme. Et ils décident de partir s'installer en Belgique, à Bruxelles tout particulièrement pour les uns, à Paris, Belleville, près du Père Lachaise, un peu pour les autres. Et c'est de cette fratrie que, au fur et à mesure des années 30, des moments qui donnent à espérer, des moments plus difficiles et puis de la catastrophe, c'est l'enchaînement qui va provoquer finalement l'apparition en in extremis sur le sol anglais en 1940 de deux Miliband qui vont ainsi faire en sorte que de toute cette fratrie, il y a une descendance qui va prendre souche en Angleterre et arriver à ce que vous venez d'évoquer avec ces deux anciens ministres de Gordon Brown et Tony Blair.
Alors justement, entre la naissance de la famille Miliband en Pologne et cette accession à la notoriété et ce plein pied d'une famille en fait d'origine immigrée dans la vie civile et politique britannique, il y a énormément d'éléments marquants qui jalonnent l'histoire et évidemment qui font écho aux grands événements de l'histoire du siècle dernier et du peuple juif dans le siècle dernier. Est-ce que vous pouvez nous parler, de manière un peu résumée, des éléments marquants de l'histoire de cette famille qui, on se l'imagine à la base, bon, ils ont fui un pays dont ils venaient pourtant, mais où ils ne se sentaient plus pouvoir continuer à vivre et à donner à leurs enfants un avenir digne de ce nom. Ils ne sont pas venus en Belgique pourtant pour devenir belges.
Non, pas vraiment. D'une manière générale, j'ai retracé tout ce périple familial, toute cette fratrie qui ils sont neuf frères et sœurs qui ont été pistés systématiquement. J'ai retracé le tout en montrant que cela pouvait. On pouvait s'y retrouver dans ce parcours quand on est issu d'une famille juive, originaire d'une famille juive venue de Pologne ou venue de manière générale d'Europe orientale. Mais j'ai tenu aussi à montrer les particularités de cette famille, qui, à travers ces différentes étapes, on y vient, qui faisait en sorte que parfois, cela avait été des éléments tout à fait salutaires pour la famille, ou à d'autres moments, ça avait été des moments qui avaient vraiment accéléré leur destin, dont ce destin bristadique. Alors les grandes étapes, c'est évidemment l'après 1918, avec la Pologne qui renaît dans ces conditions si peu amènes à l'égard des Juifs, leur envie d'émigrer, mais leur impossibilité, parce que les portes se sont drastiquement refermées, leur impossibilité de faire comme leur génération précédente, de partir vers le Nouveau Monde pour accomplir le grand rêve américain. Il y avait déjà quelques étudiants qui, en raison du numerus clausus imposé aux Juifs, venaient dans les universités occidentales, d'autres qui ne sont pas étudiants leur emboîte le pas, tout particulièrement à Bruxelles et dans les bassins industriels du nord de la France, de Liège, de Charleroi et en Belgique. Et c'est donc cette première étape. Et puis alors, ce sont des étrangers, évidemment. C'est une expérience immigrée. Ils se retrouvent la plupart du temps entre eux, organisent, importent en quelque sorte un mode de vie en provenance directe du Yiddishland.
Là, vous parlez pas d'Emily Bend spécialement, mais de tous ces juifs étrangers, voilà. Quoi.
Et c'est le cas d'Emily Bend comme d'autres. Et puis, ils subissent les effets, quand ils se produisent en Europe, du crash boursier de 29. Et à ce moment-là, on les voit tout autrement. Ils subissent une forme de xénophobie. Dans le cas de Bruxelles, d'Emily Bend en particulier, ce sont les travailleurs du queer. Ils ont tellement bien développé leur activité qu'ils finissent par provoquer des jalousies de la part de concurrents belges. Et donc, ça ne fait qu'accentuer une forme de xénophobie qui frise l'antisémitisme. Dans le cas particulier d'Emily Bent, alors que dans ces moments où, déjà à l'avance, on a tendance à vivre de manière extrêmement communautaire, c'est un petit shtetl qui se reconstitue dans les Marolles, il y a cette particularité dans le cas de la famille Emily Bent, mais qui va être décisive à mains égards, c'est que Rivka Steinhoff, l'épouse d'un des Emily Bent, de Samuel Emily Bent, fait les marchés pour écouler la production en termes de maroquinerie. Elle fait les marchés, elle s'éloigne de plus en plus de Bruxelles, se retrouve régulièrement sur des marchés du côté de Soigny, où elle se lie d'amitié avec quelqu'un, c'est vraiment le jour et la nuit, avec quelqu'un, une femme de son âge, mais qui n'est pas juive, qui est catholique, qui est une Belge vraiment de souche,
Vous parlez de Louisa Vos.
Je parle de Louisa Vos, une fermière des environs. Elles deviennent vraiment amies, les familles se fréquentent très régulièrement, à tel point qu'une des filles parle patois de Montigny-des-Lances, de petit village où vit Louisa Vos, et c'est évidemment cette amitié in tempore non suspecto, aurais-je envie de dire, qui va être un élément salvateur à un moment donné.
C'est d'ailleurs peut-être cet élément-là dans l'histoire de la famille Emily Bent qui est à la base de votre envie, de votre idée de repister leur histoire et de la décrire dans cet ouvrage.
Effectivement, mon confrère Pierre Muller, qui est un historien originaire de cette région, avait attiré mon attention sur la présence de sur toute la mobilisation qui, à l'instigation de Louisa Vos, de son mari, avait fait en sorte que ce village accueille, c'est vraiment un tout petit village qui accueille jusqu'à une quinzaine de Juifs, et qu'un silence soit imposé, qu'il soit vraiment bien protégé à partir de 1942-100 ans évidemment. Il avait attiré mon attention sur tout cet aspect des choses, mais je n'imaginais pas que ça allait me conduire jusqu'en Angleterre, je n'imaginais pas que ça allait mettre en avant aussi un très grand penseur marxiste qui est Ralph Emily Bent, le père
de David et Ed, oui.
De David, et je n'imaginais pas non plus que j'allais me retrouver à pouvoir pister toute une série de personnages qui sont vraiment représentatifs aussi, également malheureusement aussi, de tout le malheur qui est arrivé. Il y a par exemple une membre de la famille qui est comme humain à Auschwitz, et qui est d'ailleurs la seule parmi ceux qui auront été déportés, la seule à en revenir.
Alors évidemment, cette famille dispersée entre Bruxelles d'une part et le Paris populaire d'autre part subit, comme tous les Juifs d'Europe, les affres de la guerre, peut-être même encore plus puisqu'ils avaient ce statut d'étranger, effectivement, puisqu'on sait que ce sont les Juifs étrangers dans les pays qui ont été les premières victimes des rafles de la déportation. Vous décrivez ça très bien dans le livre. Je me permets de revenir un petit peu en arrière parce que votre votre récit permet de faire revivre la Bruxelles juive de l'avant-guerre, et notamment dans les Marolles et le quartier de la Gare du Midi. Est-ce qu'il n'y a pas là un monde sur lequel on pourrait écrire un ouvrage en soi?
Oui,
ou alors vous l'avez déjà fait?
Je ne l'ai pas fait, et pour le moment ce n'est pas dans mes projets. Ceci étant, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été rappelées à cet égard, et je pense qu'il y a un certain dynamisme mémoriel en ce qui concerne les Marolles, donc je ne sais même pas s'il faudrait tellement apporter encore beaucoup de choses à cet égard, mais effectivement c'est la dimension populaire de ce qu'on peut appeler la rue juive, qui est vraiment mise en avant pour ce qui est des Marolles, et qui correspond d'ailleurs tout à fait, en ce qui concerne la famille Miliband, aux frères qui sont partis à Belleville, près du Père Lachaise, à la même époque, et qui là sont d'une manière générale assez impliqués dans le Front populaire. Pour ce qui est de la manière d'évoquer les choses à laquelle vous faisiez allusion, le livre a été conçu comme une succession de petits chapitres courts, nerveux, qui replacent chaque fois un personnage sans qu'on perde le fil de tous ses liens avec les autres.
Oui, parce que c'est une grande fratrie en plus.
C'est une grande fratrie, donc c'est une espèce de fresque. Et il s'agit de ne pas se perdre avec autant de frères et sœurs, parfois pour certains lecteurs avec des noms qui sont peu familiers. Et donc, le parti pris rédactionnel de présentation que j'ai choisi de suivre est celui d'avoir transposé sous forme de livre en une série de petits chapitres courts, nerveux et en général bien illustrés aussi avec les photos des personnages, d'avoir fait en sorte de traduire en forme de livre ce qui serait l'écriture d'une série comme on aime les suivre maintenant.
C'est compris. Alors, justement, vous vous servez comme substrat à cette écriture un peu sous forme de série épisodique de cette famille Miliband qui a, malgré tous les attributs typiques d'une famille juive immigrée, quand même cette particularité de s'être ouverte, pour des raisons économiques à la base, à un monde qui était hors de leur culture, hors de leur communauté. Et finalement, on va y arriver, ça a été déterminant pour la survie, en tout cas d'une partie des membres de la famille pendant la guerre, notamment grâce à leur amitié avec Louise Avos et son mari à Montigny-les-Lances. Et puis il y a aussi l'autre partie, c'est comment finalement est-ce que Ralph Miliband, qui s'appelait d'ailleurs Adolphe avant de s'appeler Ralph,
oui.
Comment on explique cet ancrage britannique de cette famille que rien ne prédestinait?
Sur l'aspect Montigny-les-Lances, de manière très courte,
ouais.
Le grand tournant, c'est évidemment 1942, après le port obligatoire de l'étoile qui donne le signal de la déportation. Du point de vue des Miliband qui sont restés en Belgique, mais il y a l'une d'entre elles, la branche qui est tout à fait en lien avec ces fermiers de la région de Montoise, qui va finalement basculer très rapidement en trouvant l'opportunité d'aller s'y réfugier. De fil en aiguille, on va essayer d'en récupérer d'autres qui doivent se cacher aussi. C'est le moment des premières grandes rafles à Bruxelles, et d'autres vont pouvoir arriver également se cacher sur place. Pour ce qui est de la manière dont la branche anglaise a pu apparaître sur ce tronc, il faut remonter à 1940. En 1940, au moment de l'invasion de la Belgique, en mai 40, c'est l'exode pour une série d'habitants de la Belgique, les Belges eux-mêmes bien sûr, très marqués par le souvenir des années de la Première Guerre mondiale, mais inévitablement aussi beaucoup de juifs, a fortiori étrangers, qui voient arriver évidemment les pires problèmes sous forme d'invasion par l'armée allemande. Beaucoup se retrouvent sur les routes de France également, sur les routes de l'Exode. Et en ce qui concerne Samuel Miliband, un des membres de la fratrie décide de s'éloigner vers Paris, où il a forcément des points d'ancrage, et de laisser sur place son épouse et sa fille, qu'il estime trop jeune que pour se retrouver dans ce contexte très chahuté sur les routes de France. À peine ont-ils quitté Bruxelles que l'armée allemande est à Bruxelles le lendemain. À peine essaye-t-il de descendre vers le sud qu'il se rend compte que ça devient de plus en plus embouteillé, et il décide, in extremis, de rejoindre Ostende. Ils parviennent à s'embarquer dans le dernier bateau d'un marine belge à parvenir encore en Angleterre, et ils débarquent ainsi un soir sur la place de Folkestone. Le livre après évoque à travers toute une série d'archives britanniques, évoquent leur vie sur place comme réfugiés, occupés à déblayer les rues pendant les bombardements de la Luftwaffe sur Londres. Ils, eux, se retrouvent à Londres ainsi que sur toutes les autres villes britanniques. Et c'est la suite de l'histoire dont sont issus, effectivement, comme on l'a dit,
Les frères Miliband. Et c'était pas gagné d'avance parce que la fin de la guerre ne signe pas spécialement quelque part une forme d'apaisement pour la famille. C'est pas non plus automatiquement que Samuel Miliband et son fils Ralph ont la possibilité de rester en Grande-Bretagne.
Alors, de manière générale, pour tous ceux de condition juive en 1944-45, on sait que la libération est tout sauf une délivrance. La famille Miliband, bien sûr, et on l'explique dans le livre, n'échappe pas à cette règle. Il y a la particularité de ceux qui sont en Angleterre. Ralph Miliband, entre-temps, est devenu un jeune officier de la Royal Navy. Il est même parvenu à ne pas s'engager dans les rangs de l'armée polonaise, qui est à Londres aussi. Il est au large d'Ostende, il enrage de ne pas pouvoir débarquer pour enfin retrouver sa mère et sa sœur. Son père, lui, parvient finalement à avoir quelques documents pour se rendre en Belgique. Et là, on veut plus qu'il soit belge, mais il ne peut plus rentrer en Angleterre non plus. Enfin, finalement, l'affaire se règle et donc ils se retrouveront définitivement pour cette famille-là à Londres, où Ralph Miliband, effectivement, et ça, vous l'avez signalé, son vrai nom c'est Adolphe, il n'a pas trouvé ce prénom-là particulièrement sympathique et il a profité de son arrivée en Angleterre pour se faire appeler Ralph. Ici, je referme la petite parenthèse, la petite anecdote. Oui. Mais donc, Ralph Miliband est devenu ce grand théoricien marxiste à ses côtés et inspirateur du Labour à un moment donné. Et puis, il a eu deux fils dont on connaît le destin.
C'est difficile de s'arrêter parce que l'histoire est passionnante. C'est pour ça, eh bien, que je conseille à nos auditeurs, finalement, de plutôt se procurer votre ouvrage « La famille Miliband, un demi-siècle dans les tumultes de l'Europe ». C'est écrit par vous, Vincent Wagman, et votre collègue Pierre Muller. La préface est d'Annette Wiewiórka, où elle pose justement, en des termes très justes, ce qui est finalement peut-être central dans votre ouvrage. C'est qu'est-ce qui a fait que dans un village comme ça, qui n'avait rien à voir avec la communauté juive, on a pu avoir un inconscient collectif qui fait qu'on va ne pas se soumettre et plutôt protéger des gens dont la culture nous est tout à fait étrangère et que peut-être dans le village d'à côté, on va plutôt être dans la dénonciation, la délation ou en tout cas le déni et le désintérêt. Votre ouvrage soulève ces points et c'est très intéressant. Vincent Wagman, comment on se le procure, votre ouvrage ?
Alors on peut très facilement le recevoir chez soi. Il suffit d'aller sur le site projethistoire.com, la couverture...
Projet-histoire.
Projet-histoire.com. Oui. La couverture du livre est indiquée, on clique, tous les renseignements sont dotés pour...
Paiement online, on le commande.
Paiement online, sécurisé, rassurez-vous bien, sinon vous pouvez passer par votre libraire, mais c'est franchement très sécurisé, et vous le recevez très rapidement dans votre boîte aux lettres à l'adresse que vous aurez indiquée dans les jours qui suivent.
Voilà, je rappelle donc votre ouvrage, La famille Miliband, un demi-siècle dans les tumultes de l'Europe, où l'on découvre que les aïeux de deux de ces ministres des gouvernements travaillistes de Tony Blair et Gordon Brown Head et David Miliband, eh bien, sont passés par la Belgique, y ont laissé des traces. Merci Vincent Wagman d'avoir accepté notre invitation.
Merci
et à bientôt.
Merci.